Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Salut à toutes, c'est Elsa, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode bonus de Yes. Pour cet épisode, j'ai voulu vous présenter une warrior que j'aime beaucoup, Marie-Alix Détry, qui a cofondé le média féministe Culot, qui parle de genre et sexualité. Après avoir été journaliste pigiste spécialisée sur la question des violences sexistes et sexuelles pendant quelques années, elle a décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec 2 amis. Je lui ai demandé de me raconter son parcours et de m'expliquer ce qui l'a poussée à choisir cette voie. Si vous hésitez à entreprendre, surtout écoutez cet épisode jusqu'au bout.
Moi, je suis journaliste à la base, de presse écrite. Enfin, c'est marrant parce que même... Je pense que mon premier pas dans le journalisme, c'était... Je viens d'Orange à la base, qui est une ville d'extrême droite. Et en fait, le même maire y est depuis que j'ai 2 ans. Donc, depuis 95. Et en fait, mon premier stage en journalisme, c'était du coup dans un média à Orange, local. Et où en fait, j'avais fait 2 mois sur place. Et en fait, à la fois, j'avais vu le potentiel du métier de journaliste et que j'avais... Enfin, vraiment, c'était la première fois que je m'étais dit « Ok, c'est ça que je veux faire ». Et à la fois, j'avais vu la bride totale parce que, enfin, vraiment, la liberté de la presse dans une ville qui est aux mains de l'extrême droite depuis plus de 20 ans à l'époque, autant dire qu'il y a beaucoup d'autocensure. Il y a, donc, en fait, moi, mon parcours en journalisme, il part vraiment de là, quoi. Et derrière, donc, j'ai fait une école de journalisme, et c'est marrant parce que donc, j'avais fait celle de Marseille, le JICAM, et où c'est drôle parce que même j'avais eu un prof qui me demandait ce que je faisais là, parce que on t'apprend beaucoup, tu vois, le modèle France Info, tu vois, France Télé, etc. Et où moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment du long reportage, même j'avais pensé au journalisme de paix à un moment, qui est entre le journalisme et des méthodes de médiation entre des communautés qui sont, qui se disputent, et en fait, utiliser des outils médiatiques pour vraiment ce but-là. Et donc, j'avais vraiment ce regard d'idéaliste par rapport au métier. Donc, j'ai fait mes 2 ans d'études, j'avais fait des stages dans plusieurs rédactions, et dont des rédactions en Allemagne, parce que j'ai aussi vécu en Allemagne. Et en fait, c'était à la fin de mon école. J'avais plus besoin de faire de stage, mais en fait, il y avait le stage de mes rêves qui avait ouvert une place, et c'était avec YouPress, qui est un collectif de pigistes. Donc, sachant que pigistes, c'est des journalistes indépendants. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. Et en fait, c'était 3 mois d'enquête avec une dizaine de journalistes femmes sur les violences sexuelles et sexistes et sexuelles. Et où en fait, j'avais déjà candidaté à YouPress 1 an avant, je crois. Mais elle m'avait dit qu'en tant que collectif de pigistes, elle ne pouvait pas prendre de stagiaire. Du coup, j'étais genre, dommage. Et où du coup, j'avais vu cette offre de stage. Et donc là, en fait, j'ai recontacté ma fac pour avoir... il fallait que je me trouve une convention de stage plus longue. C'est passé par la mission locale, etc. Enfin bon, je me suis un peu débrouillée. Et où là, vraiment, je pense que j'ai vraiment pu commencer à faire du journalisme comme je l'entendais. Donc, je travaillais avec des journalistes qui m'ont un peu tout appris, quoi. Enfin, aussi bien au niveau de la pige que en fait, comment tu fais. Parce que vu qu'on travaillait sur des questions de violence sexiste et sexuelle, comment tu fais même pour mener une interview avec une personne donc, qui a été victime de violence sexuelle. En fait, quel mot dire, quel mot pas dire, quelles ressources apporter, jusqu'où va ton métier, jusqu'où ensuite tu donnes une carte vers des ressources qui sont plus professionnelles. Donc, Donc j'ai beaucoup, beaucoup appris à cet endroit-là. Et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Julia, qui est une des trois journalistes fondatrices de Culot. Et Jessica, je l'avais rencontrée, donc, qui est aussi cofondatrice de Culot. Je l'ai rencontrée en école de journalisme à Marseille. Je suis même rentrée dans ce métier en ayant un idéal vraiment du métier et de grandes, grandes envies via ce métier-là. Et donc derrière ces trois mois de stage qui m'ont énormément apporté, où en fait j'avais des outils, enfin j'avais vraiment fait de l'enquête comme je voulais en faire. Derrière c'était devenu un livre. Enfin c'est ben derrière je me suis dit ok c'est ça que je veux faire. En fait c'est pigiste que je veux faire, donc journaliste indépendante. Et mais pour te lancer dans la pige, le fer de lance de la pige c'est le chômage. Donc donc il faut aussi passer par des CDD etc pour pouvoir cumuler même des droits pour ensuite pour pouvoir avancer des frais de reportage, etc., etc. Donc derrière ça, j'ai fait presque un an dans un journal local dans le Sud-Est, dans plusieurs rédactions. Et où en fait, je voyais vraiment ça comme un... Quand t'es obligé de faire deux ou trois articles dans la journée, au final, en fait, t'es obligé d'apprendre à devenir efficace. Et où en fait, pour moi, c'était vraiment un endroit de formation. En fait, même pendant un an, autant j'ai fait des super beaux sujets et pour lesquels, enfin, où, enfin, tu vois, j'ai encore un peu d'émotion en y pensant, même si c'était de la presse locale, tu vois. Il y avait vraiment ce truc-là de me faire mes armes, en fait, me faire mes outils dans le métier de journaliste. Donc, j'ai fait à peu près un an. Et derrière, je me suis dit, bon, bah, je pars en freelance. C'était à la fois par rapport au sujet que je voulais traiter, à la fois parce que, ben, du coup, t'es dans une rédaction avec, évidemment, que des hommes à la tête de la rédaction. Et, enfin, tu vois, il y avait aussi une sorte de climat, même humain, qui me convenait pas à long terme. Et du coup, je suis partie en freelance. J'ai cofondé avec des amis journalistes un collectif de pigistes qui s'appelait le collectif Les Plumets. Et en fait, à partir de là, j'ai beaucoup bossé sur les thématiques de violence sexiste et sexuelle, sur les thématiques des droits des femmes, sur les droits des personnes LGBTQI+, et à la fois en France, et j'ai une passion ex-URSS. Du coup, c'était aussi beaucoup en ex-URSS, Ukraine, Russie et Asie centrale. Culot, c'est venu quelques années après le fait que je me sois lancée dans la pige. Et donc ça faisait quelques années déjà que je pigeais, où clairement au niveau des articles que j'avais faits, enfin tu vois, il y avait vraiment, j'y trouvais complètement la liberté que je voulais, enfin tu vois, dans la manière de traiter le sujet, dans le temps que tu passes dessus, etc. Financièrement, c'est une catastrophe, par contre. Mais enfin tu vois, je me souviens même on avait co-signé une enquête avec du coup une amie et une collègue des Plumets, donc le collectif en question. En fait, on avait passé quasiment un an dessus et on l'a vendu. On a tiré quoi, 300 balles chacune, je pense. Mais bon, tu crois à ce que tu fais, tu le fais. En fait, il y a eu peu de temps après, j'ai eu l'idée de Culot. En fait, je m'étais rendu compte, à force de travailler pendant des années sur la thématique des violences sexistes et sexuelles, je me suis rendu compte super tard, en fait. Mais ben ouais, en janvier 2019, que moi-même j'en avais vécu. Et que j'en avais subi, et qu'en fait, c'était pas des violences pour lesquelles j'aurais pu aller au poste. Et enfin, tu vois. Mais où en fait, ouais, j'ai eu une sorte de grosse prise de conscience en me disant, genre, ah, mais attends, mais ça c'était une violence, ça c'était de la violence, ça c'était de la violence, là je me suis pas respectée, là j'ai pas dit non. Et en fait, je savais pas dire non, et en fait, je savais pas dire oui. Et en fait, je me disais, c'est quand même fou. Enfin, je travaille sur cette thématique depuis des années, je suis journaliste, je parle trois langues et demi, enfin, parce que je parle anglais, allemand et un peu de russe, enfin, j'ai le russe de survie, quoi, mais. Et je me disais, avec tout ça, en fait, j'étais pas capable de reconnaître ce qui... Enfin, tu vois, et j'avais pas les clés. Et en fait, c'est qu'on manque d'infos, quoi. Du coup, voilà, à ce moment-là, je commence à regarder un peu, enfin, tu vois, sexologie, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, bah... En fait, je pense qu'il faut lancer un média sur les sexualités, en fait. Et vraiment parler de ça, parce que via la sexualité et via les sexualités, tu peux tout traiter. Enfin, tu peux vraiment arriver à toutes les thématiques. J'appelle d'abord Julia, donc, que j'avais rencontrée au stage de YouPress. Parce qu'on était restés en contact. Elle est journaliste radio, moi j'étais en presse écrite et en photo. Et en fait, peu de temps avant, elle m'avait dit que justement, elle pensait à la sexologie. Et du coup, je lui ai dit, attends, j'ai un projet, bouge pas, viens, on monte un média sur les sexualités. Elle me fait genre, ok, I'm in, tu vois. Et juste après, il y a Jess, donc qui est une journaliste que je respecte énormément et c'est aussi une très bonne amie. Je crois que c'était peut-être deux jours après ou quoi, je lui parle du projet. Et elle me dit, attends, bouge pas, je suis dedans. Et où en fait, direct, on s'est lancé toutes les trois à vraiment se faire une réunion par semaine, à se dire en fait, ok, ça va ressembler à quoi. Au début, on voulait l'appeler Fessé le média, enfin. Et du coup, là, on s'est mis à dessiner un peu l'architecture de Culot, quoi.
Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement Culot, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, voilà, quel a été l'élément déclencheur vraiment, une fois que vous êtes mises d'accord et tout ça, pour concrétiser le projet?
Si vous avez Instagram, c'est Culot Créative. Et vous avez aussi le lien vers la newsletter. En fait, Culot, c'est un média sur les genres et les sexualités qui parle vraiment de tout ce que le débat, le combat féministe font à la société. Donc sur Instagram, il y a aussi bien des web-séries qu'on fait. Donc, pour rappel, moi, je suis presse écrite. Jessica, elle est en télé et Julia en radio. Du coup, il y a vraiment les trois formats. Et donc sur Insta, tu vas trouver des vidéos, des interviews aussi bien d'influenceuses, sex positive pour savoir ce qui a causé leur déclic sexuel. Des influenceuses féministes comme Noémie Delattre, par exemple, pour savoir quel a été son déclic féministe. On a aussi des séries comme Zoom Sur, où en fait on va parler avec une personne spécialiste d'une question. Par exemple, ça va être avec Lucille Pétavin sur le coût de la virilité. Donc c'est une historienne qui a fait le travail de calculer en fait combien coûtent les comportements virils à la société. Donc en fait, que ce soit aux frais de d'incarcération, que ce soit même tous les accidents, en fait toutes les violences, etc. Combien ça coûte? Donc il y a un peu tout ce contenu là, et derrière il y a une newsletter où en fait toutes les deux semaines on fait soit une interview avec une personne, donc qui peut être sociologue, philosophe, toujours en lien avec le féminisme, soit une enquête ou un reportage, pareil. C'est le fil rouge, c'est le féminisme. Et donc l'idée, voilà, donc ça c'est le côté média. On a aussi deux podcasts qu'on a fait pour deux projets différents. Donc c'est deux podcasts sur le corps des femmes en fait, dans le monde médical. Et en fait on fait aussi donc du brand content, donc c'est des contenus sponsorisés. Donc en fait ça va être des podcasts de marque, des web-séries de marque. Donc évidemment on fait ça pour des marques féministes et qui ont les mêmes valeurs en fait, le même fil rouge que nous. Et derrière, là, on lance aussi des formations, aussi bien sur les violences sexistes et sexuelles que sur comment, en fait, on peut recruter et construire son équipe en ayant conscience des inégalités de genre et des inégalités raciales. Donc là, on est aussi en train de lancer l'aspect formation de Culot.
Comment vous avez lancé, quelle a été la première pierre, en fait, après que vous ayez fait ces réunions, vous trois, etc., qui a vraiment concrétisé le démarrage de « bon, bah là, ça y est, on le fait vraiment sérieusement, quoi ».
Je pense que c'était 6 mois après avoir eu cet appel à Troyes. Et donc moi, j'étais au Kyrgyzstan à ce moment-là. Je vivais à Bishkek, qui est la capitale du Kyrgyzstan. Et donc en fait, on se faisait des réunions Skype entre Montréal, où était Julia, Paris, où était Jess, et du coup Bishkek, où j'étais. Et donc en fait, autant te dire que s'il y en avait une qui loupait la réunion, en fait, on pouvait difficilement, reprogrammer, parce que niveau jet lag, il y avait un créneau, fallait pas le louper, quoi. Et en fait, je pense que le point vraiment de démarrage, ça a été... Parce que nous, une de nos premières questions, c'était en fait, ok, on veut lancer un média, mais par contre, comment on fait? Enfin, moi, typiquement, j'étais pigiste, et en fait, je me suis dit, mais comment je fais pour jamais traiter personne de la manière dont j'ai été traitée? Alors, autant avec certaines rédactions, ça s'est super bien passé. Amis pigistes, si vous avez des bonnes collabs, gardez-les. Mais pour le coup, tu vois vraiment de tout, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, comment? Enfin, et on s'est dit, comment on fait, même en fait financièrement, pour pouvoir assumer le fait de si et quand le média se développe, comment on fait pour payer des gens, comment on fait pour les respecter, les payer normalement et correctement pour leur travail. Au début, on a un peu pensé au système d'abonnement, on a fait un tour de table, on s'est dit je pense qu'on va pas faire ça. Et du coup, il fallait vraiment qu'on trouve un business model en fait, pour arriver à lancer ce projet. Et à le faire vivre. Et du coup, en fait, on a commencé à chercher des incubateurs. On regardait aussi bien des incubateurs médias que des incubateurs un peu start-up. Et où, au final, les incubateurs médias, en tout cas ceux qu'on avait vus à ce moment-là, et donc je pense que ça a encore bougé aujourd'hui, parce que maintenant, t'en as d'autres. T'as le projet Source qui vient de commencer, qui a l'air super. Enfin, c'est un... mais à l'époque, en tout cas, je pense que la presse, c'est tellement un secteur où, en fait, depuis que les gens ont accès vraiment à des contenus gratuits, il y a vraiment une question dans la presse, c'est comment on fait pour se rémunérer, quoi. Et en fait, les incubateurs médias qu'on trouvait, c'était beaucoup sur l'éditorial, en fait, les premières aides, les premières bourses, et où derrière, par contre, c'était gros point d'interrogation. Et du coup, on regardait un peu les incubateurs start-up, surtout que nous, on était 3 journalistes, moi, j'avais aucune connaissance en business, et j'étais genre, ok, bon, en fait, on va faire comment? Et du coup, on postule, et on a un incubateur à Marseille Et où en fait c'était un projet pendant 3 mois où en fait on t'accompagne machin et où en fait à la fin tu peux avoir potentiellement un fonds de départ d'investissement. Du coup on postule et en fait donc là on le décroche. Mais le côté un peu surprise, c'est que le moment où on le décroche, ça commence 2 semaines plus tard et que donc moi je suis censée être à Marseille en fait 2 semaines plus tard alors que je suis littéralement à 6000 bornes de là en fait. Et du coup j'étais comme bon bah de toute façon là il y a pas le choix. Hein. Enfin en fait. Par chance, j'avais des amis qui étaient venus sur place et du coup, j'ai mis mes pleins d'affaires dans leur valise en mode « ramenez ça ». Mais ça faisait un an que j'avais accumulé des affaires là-bas. Et derrière, je prends un billet d'avion et en fait, j'arrive la veille du début de l'incubateur et je me pose 3 secondes. Enfin, tu sais, le temps de retrouver un peu Marseille, de redire bonjour et après, ça part, quoi. Et au final, ouais, je pense que l'incubateur, ça a été vraiment le moment où on a commencé à se mettre dedans. Enfin, tu vois, à ce que ça prenne de la place dans le quotidien, à ce que le projet cause un déménagement, à ce que, enfin, tu vois. Et je pense qu'on n'a pas trouvé toute l'expertise qu'on escomptait. En tout cas, je pense qu'on y a trouvé plein de choses, mais pas du tout ce à quoi on s'attendait. Et où derrière, en tout cas, donc on n'a pas eu le fonds d'investissement, mais en même temps. En fait, ils cherchaient des projets hyper tech, tu vois, et où en fait, nous, clairement, on n'allait pas faire de la réalité virtuelle, enfin, où clairement, c'était pas dans les prios, quoi. Du coup, voilà, on a fait les 3 mois d'incubation, et en fait, à la sortie des 3 mois, si tu veux, bah, c'était mine de rien. En fait, on avait, tu vois, on avait trouvé une personne directrice artistique, on avait trouvé, enfin, tu vois, on avait vraiment, genre, tout ce qu'il fallait pour se lancer, et du coup, on a commencé à faire les premières vidéos, etc. Et en fait, du coup, derrière, en janvier, on a lancé le compte Insta. Donc en janvier 2020, ça a été lancé.
Ça en est où aujourd'hui ?
Bah du coup, on a fait 2 podcasts. Un qui est encore en cours, qui s'appelle « Je suis une sur 3 » sur l'IVG. Et un autre qui est la salle d'attente, qui est sur la place des femmes en fait, dans le monde médical. Mais surtout, ouais, on a une salariée qui est arrivée, Emma, qui a rejoint l'équipe en mars. On a eu un financement, donc en fait c'était une bourse, la bourse Émergence Média du ministère de la Culture. Ça, on l'a eu en novembre dernier. Et on a un local à Marseille. Du coup, voilà à peu près où on en est. Et on a plein de projets lancés.
Et vous avez dépassé les 10 000 abonnés sur Insta, je pense, non ?
Ah, pas encore, on est à 9 600 et des brouettes, je crois.
C'est déjà pas mal. Tu peux nous dire un peu quels sont les moments où t'as douté, où tu t'es dit non, mais là c'est impossible, ça va pas marcher. Enfin, un peu les pire moment du projet justement montrer aussi que c'est pas si facile que ça hein, de monter sa boîte, surtout quand on crée un média et comme tu dis, il y a pas beaucoup de business model qui fonctionne, etc. Et ensuite les meilleurs moments, parce que quand même on va pas rester sur sur du négatif.
Yes. Alors les moments de doute, je pense que je peux y aller. T'as une heure? Enfin...
Les pires.
Ok. En fait, le premier, et je tiens un peu à le dire parce que je pense que d'autant plus en tant que femme, on peut être vraiment propice à avoir ce syndrome de l'imposture. Et personnellement, donc je pense qu'avec Jess et Julia, on l'a toutes les trois eu à 3 moments différents. Moi, je l'ai eu au moment de l'incubateur, justement. Et où en fait, bon, y a un truc à savoir chez moi, c'est que je dors super bien. Enfin, vraiment, le sommeil, c'est un super pouvoir. Enfin... Et où en fait, pendant cet été-là, il y a un moment où en fait, je m'endormais à 3h, 4h du matin et je me disais, mais il y a un truc louche. Enfin, tu vois, vraiment, quand ça vient taper dans mon sommeil, je me dis, genre, vraiment, il y a un truc, faut aller creuser, tu vois. Et du coup, là, en fait, je n'attends pas, j'appelle ma thérapeute, en fait, et je lui dis, est-ce qu'on peut se voir, s'il te plaît, genre, dès que possible, parce que, tu vois, je suis stressée, quoi. Mais c'est marrant parce que, elle est pas spécialisée dans la thématique du genre ou tu vois, elle est pas trop sur les gender théories mais en fait sa première question c'était c'est quoi la place de la femme dans ta famille. Et moi j'étais genre ah ouais. Ouais, je pense qu'on va partir de là en fait. Et où en fait, il y avait vraiment Et en fait, en une session de 2 heures, c'était fini, tu vois. Et en fait, j'avais dépassé ce truc là où en fait, on avait fait toute une toute une session autour de ça et en fait de sentiment de légitimité, de moi, oui, j'ai des ins, je me sens femme, et où en fait, oui, je lance quand même un projet, là où en fait les personnes entrepreneuses que je connaissais jusque-là, il y en avait quelques-unes, mais c'était que des hommes aussi. où il y avait vraiment ce truc-là de ok, en fait, je suis hyper bien entourée et je suis refaite de mon équipe, mais en fait, il y a vraiment ce challenge de je suis une meuf et je lance un projet, tu vois. Et en plus, donc avec le côté brand content, avec le côté formation, etc. Enfin, tu vois, c'est un truc où, en fait, à la base, on part d'un média et où, en fait, derrière, tu te dis, mais en fait, on, on part dans tous les sens, tu vois, ça devient un gros truc, quoi. Et donc ça, je pense que c'est le premier qui me vient. Et le deuxième, c'était en... Donc, gros moment de doute, c'était en début d'année dernière. Et où, en fait, si tu veux, c'était un moment un peu charnière parce que enfin il y avait eu des problèmes dans ma famille, il y avait eu enfin tu vois en plus je venais de me séparer de ma copine et où en fait si tu veux c'était j'arrivais pas à m'arrêter de travailler en fait. Enfin il y avait vraiment ce truc de en plus du coup j'avais un job à temps partiel parce que comme j'avais épuisé mon chômage enfin tu vois avec la pige et que autant te dire qu'en fait pour recharger tes droits au chômage avec la pige vas-y quoi surtout avec la réforme qui a eu enfin bref. Et où, en fait, enfin, je pense que c'était proche du burn-out, quoi. Et où, en fait, c'est Jess qui m'a mis un taquet à un moment, et je la remercie. Enfin, tu vois, et où, en fait, enfin, vraiment, j'avais plus de place pour autre chose que le travail dans ma tête, et où, enfin, vraiment, ça commençait à être hyper anxiogène. Et vraiment, c'est Jess qui m'a dit, meuf, là, il te faut 3 jours, en fait. Et en fait, je l'avais appelée pour le boulot, et elle me dit, en fait, j'ai même pas envie de te répondre. Là, juste, mais va dans la campagne, en fait. Et j'étais genre, ouais. Ouais, t'as raison, c'est pas urgent du tout, en fait, je vais faire ça, tu vois. Et en fait, derrière, je fais vachement gaffe à mes jours off, à mon temps off, enfin, tu vois, là, enfin, tu vois, on a tout encore des jobs alimentaires à côté, mais où, du coup, j'en ai pris un qui était moins chronophage, et où, en fait, enfin, je fais hyper gaffe, quelle que soit l'urgence, à toujours me garder, enfin, tu vois, un certain nombre de jours off, quoi, dans le, parce que je sais que ça peut te bouffer le cerveau, en fait. Donc, voilà pour les moments de doute. Et sinon, les meilleurs moments, mais pareil, il y en a plein, il y en a peut-être même plus. Je pense qu'il y en a plus, en fait. Mais je pense que le plus obvious, on va dire, c'est le moment où on a eu la bourse. Et où, en fait, moi, j'étais partie 3 semaines en vacances, justement. C'était en octobre dernier, septembre-octobre dernier. Et j'étais partie en moto et en camping sauvage pendant 3 semaines. Enfin, grosses vacances, enfin, tu sais, téléphone éteint, etc. Et où, en fait... Donc je me sentais méga reposée, enfin tu vois ça faisait 1 an et demi que je m'étais pas sentie comme ça, enfin tu vois où j'avais même plus de travail en tête, enfin j'étais juste en mode genre où est-ce que je mange, où est-ce que je dors, enfin tu sais est-ce que je vais me faire gauler si je dors ici, les problèmes un peu simples. Et où en fait ben c'était sur le retour justement je vois un appel et où en fait c'est enfin et en fait j'apprends qu'on a décroché un financement du ministère de la Culture et où en fait là ça te change les perspectives en fait, enfin tu vois. Nous, on a décidé de pas encore se rémunérer et de tout réinvestir dans le projet, histoire de, enfin, tu vois, d'être sûr, quoi. Mais il y a vraiment un truc où à la fois tu te dis, ok, donc en fait là, enfin, tu vois, jusque là, c'était que des investissements perso, et en fait là, tu te dis, ok, donc en fait là, ça nous ouvre des portes, enfin, tu as des possibilités. On a pu recruter Emma, qui est stratège digitale, etc. Et à la fois, il y avait un côté, ouais, bah en fait, le ministère de la Culture, il valide. Et tu vois, il y a un truc aussi où tu te dis, enfin déjà, pour moi, pour avoir travaillé sur les violences sexistes et sexuelles pendant des années avant, et en fait, à voir à quel point c'était compliqué d'arriver à placer un sujet comme ça, enfin, tu vois, dans des médias mainstream, etc. Et en fait, aujourd'hui, voir que en fait, le sujet est là, en fait, il est sur la table. Et où déjà, ça, c'est un pur bonheur. Et où après, derrière, c'était tellement de... Tu vois, c'était juste... Enfin, ça faisait chaud au cœur, en fait, de voir, enfin, tu vois, des années de boulot... Ouais, où en fait t'as une validation du ministère de la Culture, quoi. Et après, il y en a eu plein, en fait, mais c'est lié aux personnes qu'on rencontre. Enfin, tu vois, que ce soit l'interview avec Alice Coffin, que ce soit un moment. Enfin, tu vois, même. Enfin, tu vois, certaines confidences, parce qu'on fait des confidences sur l'oreiller, sur Instagram, où en fait c'est des personnages. Enfin, des témoignages de personnes anonymes qui nous racontent leur histoire. Et en fait, il y en a qui nous donnent envie de pleurer de ouf, en fait. Enfin, et tu vois, et même les MP qu'on reçoit. Enfin, en fait, il y a tout ça. Il y a tout ça aussi qui... En fait, il y en a trop des bons moments, quoi. C'est fatigant, hein, comme de lancer ce projet... Enfin, tu vois, de lancer un projet ou de lancer ce projet. Mais à la fois, c'est tellement le kiff, en fait.
Et qu'est-ce que tu dirais, alors, à des femmes qui ont envie de lancer un média aujourd'hui, malgré, justement, tous les problèmes, tous les obstacles, et notamment, je pense, encore une fois, au business model, parce que c'est bien beau de vouloir faire ça, mais il y a un moment, il faut payer son loyer. Donc ouais, si quelqu'un aujourd'hui te disait moi je veux lancer un média féministe ou même pas que féministe, hein, même un média tout court et une femme, qu'est-ce que tu lui dirais?
Fonce. Je pense que je dirais juste fonce. Enfin, et après de pas hésiter en fait à contacter, à aller parler, à, enfin tu vois, en fait d'une part tu peux pas tout savoir et en fait c'est ok, enfin personne peut tout savoir et la personne qui te dit qu'elle sait tout, ben c'est que c'est du bullshit le plus total. Et où en fait ça aussi c'était un truc où avec Culot j'avais été hyper agréablement surprise. Enfin tu vois, même au moment où on dessinait le projet, en fait on approchait des personnes, enfin tu vois, en voyant la thématique féministe dans leur job, etc. Mais et en fait tout le monde était prêt à aider, en fait prêt et prête. Et où en fait quand tu vois un projet qui motive comme ça, en fait ça te donne trop de force de voir, enfin tu vois que t'as des personnes qui au début bénévolement, tu vois, vont te filer un coup de main, et où en fait ouais, il y a que si tu demandes pas que t'auras pas, mais où en fait si tu poses la question, je suis sûre que, enfin tu vois, ton projet il va intéresser des personnes qui sont intéressées par la thématique, et du coup pas hésiter à aller parler, à demander de l'aide, tu vois, ou à demander des infos. Et
toi, tu t'es mis une deadline où tu t'es dit si jamais ça marche pas, j'arrête.
En fait, ouais, c'est on s'était un peu dit ça avec Jess et Julia. En fait, on s'est donné justement, en fait, enfin, tu vois, c'est tellement de boulot, c'est tellement de, en fait, c'est tellement fatigant, etc. En fait, on s'est donné une deadline. Enfin, tu vois, on n'y est pas encore, hein, mais. Où en fait on s'est dit, en fait au-delà, si le projet il décolle pas, ben en fait on va plier bagage, tu vois, et en fait ça aurait été génial, ça aurait été une expérience de ouf, mais on s'arrête là et en fait on donne tout jusqu'à la deadline. Mais je pense que c'est important en fait d'avoir un but, tu vois, d'une part parce qu'en fait du coup ça te motive, tu vois, de te dire dans un an et demi, en fait il faut que, enfin tu vois, qu'on ait plus besoin de, enfin tu vois, si tout va bien, qu'on ait plus besoin de faire des appels à bourse ou des appels à fonds, et que en fait tout roule. Et ouais, du coup à la fois il y a un truc où moi je sais que il y a un truc pour lequel je kiffe, c'est que je suis toujours bonne en deadline, tu vois, genre dès que j'ai une deadline je suis comme ok, là je donne tout, tu vois, et où il y a le facteur motivant, et aussi il y a le facteur où en fait et je pense que c'était aussi en lien avec le, enfin tu vois, quand je te disais que j'allais, qu'il y a un moment où j'avais que le boulot en tête, enfin tu vois, et que en fait je me disais il y a plus que ça, il y a plus que ça, il y a plus que ça, en fait si, enfin tu vois, toi tu lances ce projet, mais en fait le projet sans les têtes qui le créent, en fait, enfin tu vois, le projet c'est rien, enfin tu vois, c'est pas, et où en fait moi je trouve ça hyper rassurant et important de se dire que en fait si jamais le projet il marche pas, bah en fait tout ce que t'as fait, en fait c'est pas perdu, quoi, c'est full time de l'expérience, et en fait tu peux aussi le transformer en autre chose.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a donné la pêche et surtout qu'il t'a donné des idées, parce qu'on a besoin que toujours plus de femmes lancent leurs projets et racontent leurs histoires. Merci à Marie-Alix pour son témoignage. Tu peux retrouver Culot sur Instagram @culotcreative et t'abonner à leur newsletter qui est évidemment super quali. Je te dis à dans 2 semaines pour le dernier épisode de la saison. Et d'ici là, n'oublie pas, tu es légitime, tu es une experte, tu as la force nécessaire pour mener à bien tes projets. Bref, meuf, t'es une warrior.